À tous. Bienvenue à chacun d'entre vous. Et effectivement, eh bien, je vais commencer par la lecture de la parole de Dieu. Et je vous propose de pouvoir suivre la lecture. Alors, la version que j'ai choisie est différente de celle que vous avez dans les Bibles que nous avons ici. J'ai suivi la version du semeur, mais c'est les mêmes paroles. Je commence à partir du verset 2. Dans Habacuc chapitre 2. Et l'Éternel me répondit, « Écris cette révélation et grave-la sur les tablettes, de sorte que chaque lecteur la lise couramment, car c'est une révélation qui porte sur un temps fixé, qui parle de la fin et n'est pas mensongère. Si l'Éternel paraît tarder, attends-le patiemment, car il vient sûrement, il ne tardera pas. Si quelqu'un flanche, il n'est pas droit de cœur. » Mais le juste vivra grâce à sa foi. En effet, la richesse décevra le guerrier orgueilleux et il ne subsistera pas. Lui qui, tel le séjour des morts, ouvre une large bouche et qui, comme la mort, n'est jamais rassasié, car il ajoute à ses conquêtes nation après nation et il rassemble tous les peuples sous sa domination. Mais un jour, tous ces peuples lanceront contre lui des proverbes moqueurs et des paroles ironiques. Et l'on dira, malheur à lui, car il amasse des richesses qui ne sont pas à lui. Jusqu'à quand cela va-t-il durer? Il accumule un lourd fardeau de dettes. Tes créanciers ne surgiront-ils pas soudain? Ils se réveilleront pour te faire trembler, et ils feront de toi leur proie. Toi qui as dépouillé des peuples innombrables, tu seras dépouillé par le reste de tous les peuples. Pour avoir répandu le sang humain, et pour avoir commis des actes de violence, contre le pays de Juda, sa ville et tous ses habitants. Malheur à qui amasse un profit malhonnête pour toute sa famille et qui cherche ainsi à établir son nid sur les hauteurs pour le mettre à l'abri de tout malheur. Oui, c'est le déshonneur de ton propre royaume que tu as préparé. En détruisant de nombreux peuples, tu t'es fait du tort à toi-même. Car du sein des murailles, les pierres vont crier. De la charpente, les poutres leur feront écho. Malheur à qui bâtit la ville en répandant le sang, à qui fonde la cité sur le crime. Quand les peuples travaillent pour ce qui périt par le feu, et quand les nations s'éreintent pour rien, cela ne vient-il pas de l'Éternel, du Seigneur des armées célestes? Car la terre sera remplie de connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond des mers. Malheur à toi qui force ton prochain à boire et qui vide ton outre jusqu'à l'ivresse pour pouvoir contempler sa nudité. Toi aussi, tu seras rassasié d'infamie au lieu de gloire. Toi aussi, tu boiras, et puis l'on te mettra à nu pour découvrir ton incirconcision. Ton tour viendra de boire la coupe de colère que l'Éternel te tendra de sa droite. Le déshonneur recouvrira ta gloire. Tu seras submergé par la violence que tu as exercée contre la forêt du Liban. Le massacre des animaux retombera sur toi pour t'écraser, car tu as répandu le sang humain. Tu as commis des actes de violence contre le pays de Juda, sa ville et tous ses habitants. À quoi sert une idole sculptée par l'artisan ou une statue de métal fondu qui n'enseigne que le mensonge? Car celui qui l'a faite se confie en son œuvre pour fabriquer une idole muette. Oui, malheur à qui dit à un morceau de bois, « Réveille-toi !» À la pierre muette, « Allons, sors du sommeil !» Peuvent-ils enseigner? Voici, ils sont plaqués d'or et d'argent, mais il n'y a en eux aucun souffle de vie. L'Éternel, lui, se tient dans son saint temple. Que le monde entier fasse silence devant lui. Alors, je vous l'accorde, le texte n'est pas si facile que ça. Mais j'espère que par ce message et par cette prédication, nous pourrons entendre ce que Dieu veut nous dire ce matin. En ce moment, nous parlons beaucoup du système judiciaire français. Si vous suivez un petit peu l'actualité, on parle beaucoup de cela. Parce que les dernières affaires et les failles qu'on a reconnues dans le système remettent en question ce système actuel. Et heureusement que nous sommes quand même dans un pays où la question de la justice compte. Mais cette justice demeure imparfaite, cette justice demeure faillible, et un seul seulement ne se trompe jamais en matière de justice. C'est notre Dieu. Nous restons ce matin dans cette thématique de la justice de Dieu. Nous avons vu la semaine dernière que le prophète Habacuc ne comprenait pas pourquoi Dieu laissait les injustices se multiplier dans son pays. Et Dieu a répondu de manière surprenante qu'il allait châtier effectivement son peuple injuste en envoyant un peuple encore plus injuste, les Chaldéens ou les Babyloniens. Et Habacuc ne comprend toujours pas comment un Dieu juste qui ne supporte pas la vue du mal peut agir de cette manière. Comment il peut se servir d'un peuple plus injuste que son propre peuple? Mais Dieu va plus loin et il promet qu'il va venir lui-même. Que c'est lui qui va faire justice. Et qu'il s'agit pour Habacuc et pour tous ceux qui se confient en lui de vivre dans la fidélité. Nous avons en effet terminé dimanche dernier par cet appel « Le juste vivra grâce à sa fidélité ». C'est-à-dire en comptant sur Dieu. C'est-à-dire en continuant de vivre selon ses voies. Et si le juste vivra grâce à sa fidélité, alors qu'en est-il de l'injuste, de celui qui ne craint pas Dieu? Quel va être son sort alors? Eh bien, le sort qui l'attend nous est exposé justement dans les versets 5 et suivants que nous avons lus. Et nous allons en parler dans un instant. Je vais y revenir. Je ne savais pas que je pouvais zoomer. C'est beau, la technologie. De nos jours, vous le savez comme moi, le monde ne va pas mieux. Par rapport à l'époque d'Habacuc, le monde d'aujourd'hui ne va pas mieux. Et malgré le traumatisme des deux guerres mondiales, les nations continuent de se faire la guerre. La paix est sans cesse menacée. Et l'insécurité reste un thème phare des campagnes politiques en France. Dans ce monde qui est rempli d'injustice et de violence, posons-nous la question, pourquoi devrions-nous faire confiance à Dieu? Quelles sont les raisons que le texte de ce matin nous donne, qui nous pousserait à faire confiance à Dieu alors que nous vivons dans un monde rempli d'injustice? Eh bien, premièrement, la première raison, c'est que Dieu ne ferme pas les yeux sur le mal. Dieu ne ferme pas les yeux sur le mal. J'ai été enseignant en collège et je peux vous dire que c'est tout un art que d'exercer la discipline dans une classe. Parfois, il faut réagir immédiatement et sanctionner. Et d'autres fois, il faut savoir laisser passer, faire preuve de patience, avertir plusieurs fois l'élève ou les élèves perturbateurs avant de sanctionner. Tout ça pour vous dire que c'est en fait très difficile d'être constamment juste. Et il y a bien des fois où je n'ai pas été un professeur juste. Soit par trop de sévérité, soit par trop de laxisme. Mais Dieu est différent. Il est entièrement juste. Et Habacuc avait raison de dire dans le premier chapitre, au verset 13, « Tes yeux sont bien trop purs pour supporter la vue du mal. Tu ne peux accepter de voir les méfaits se commettre. » Oui, c'est vrai, ça décrit bien notre Dieu. « Tes yeux sont trop purs pour supporter la vue du mal. » Dieu voit les injustices. Dieu n'est pas aveugle. Dieu voit tout ce qui se fait ici-bas et qui lui déplaît. Et même quand il n'intervient pas tout de suite, même quand son jugement semble tarder, il finit par rendre justice. Souvent, dès cette vie terrestre, il rend justice. Mais ultimement, Dieu nous révèle dans sa parole qu'il y aura un jugement dernier. Et qui dit jugement dernier, dit qu'il n'y aura pas d'autre jugement après cela. Ce sera l'ultime procès, l'ultime verdict qui déclarera les coupables coupables et les justes justes. L'ultime procès qui mettra fin à toutes les injustices, où tout le mal commis ici-bas sera entièrement châtié comme il faut. Oui, pour les coupables, il n'y aura aucun moyen de faire appel après ce jugement dernier. Mais pour l'heure, regardons notre texte. C'est vrai qu'il faut s'habituer au genre prophétique. Il faut s'habituer au langage qui est souvent imagé. Et cela commence au verset 5. Vous le voyez, le portrait du fier guerrier qui est le Babylonien. Il est redoutable et il est affamé de conquêtes. Il a faim et il a faim de détruire des nations et de s'en emparer. Il s'en prend à tous les peuples et sa fin ici est déjà annoncée. Il ne subsistera pas. Malgré sa puissance, malgré le fait que les peuples puissent craindre cette montée en puissance des Babyloniens, eh bien la fin de cet empire est déjà annoncée. Et voilà ce qu'Habacuc peut percevoir. Les Babyloniens ne sont même pas encore arrivés sur le territoire de Juda, mais déjà Dieu annonce qu'ils sont finis. C'est un jugement qui est porté contre cette nation. Oui, c'est assez étonnant. Dieu fait venir ce peuple impie, impitoyable, pour châtier son propre peuple en Juda. Et pour autant, Dieu ne ferme pas les yeux sur le mal que commet cette nation et va appliquer aussi son jugement contre cette nation. Oui, regardez le verset 6. « Mais un jour, tous ces peuples lanceront contre lui des proverbes moqueurs et des paroles ironiques. » Une manière de dire qu'il y a un retournement de situation. Et ici, on comprend que dans la suite du texte, il est question d'ironie. C'est comme ça qu'il faut lire la suite du texte. Il y a une ironie. « Celui qui a causé tant de dommages aux autres peuples subit à son tour un juste retour de bâton. » Et à la lecture du texte tout à l'heure, vous avez peut-être entendu ce mot qui est répété plusieurs fois. Est-ce que vous l'avez entendu et repéré? Quel est le mot qui est répété à plusieurs reprises? Je n'ai pas assez insisté là-dessus, sans doute. C'est le mot « malheur », employé 5 fois. « Malheur » aux Babyloniens. « Malheur à lui ». Car il amasse des richesses qui ne sont pas à lui. Jusqu'à quand cela va-t-il durer? Il accumule un lourd fardeau de dettes. Des créanciers ne surgiront-ils pas soudain? Ils se réveilleront pour te faire trembler et ils feront de toi leur proie. Toi qui as dépouillé des peuples innombrables, tu seras dépouillé par le reste de tous les peuples pour avoir répandu le sang humain et pour avoir commis des actes de violence contre le pays de Juda, sa ville et tous ses habitants. Et ce dernier verset, le verset 8, toi qui as dépouillé des peuples innombrables, tu seras dépouillé par le reste de tous les peuples. Ce verset 8 met en évidence une juste rétribution. Les Babyloniens vont subir ce qu'ils ont infligé aux autres. Et c'est juste, ce n'est que justice. Certains commentateurs évoquent à ce titre le principe de la loi du talion, œil pour œil et dent pour dent. Et cela s'applique aussi pour les Babyloniens. Le châtiment est à la hauteur du crime commis. Et nous pouvons être sûrs qu'avec Dieu, il n'y a pas un excès de sévérité ou de laxisme. Dieu va toujours proportionner son châtiment par rapport à la faute commise. Une juste rétribution, c'est ça que nous retenons. De la même manière, nous pouvons être certains que Dieu ne ferme pas les yeux sur les injustices qui se produisent dans notre monde. Et dois-je ajouter que Dieu ne ferme pas les yeux sur les injustices que nous pouvons commettre aussi, dont nous sommes les auteurs. Dieu ne ferme pas les yeux non plus là-dessus. Et cela devrait nous remplir de crainte quand nous voyons de quelle manière Dieu exerce sa justice. En réalité, contrairement aux apparences, il ne laisse rien passer. Notre Dieu ne laisse rien passer. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est saint, parce qu'il est juste, le mal doit toujours être sanctionné. Autrement, ça remettrait en question sa justice. Mais parce qu'il est Dieu et qu'il est juste, le mal doit toujours être sanctionné. Et c'est ce que nous voyons avec la suite. Malheur à qui amasse un profit malhonnête pour toute sa famille et cherche ainsi à établir son nid sur les hauteurs pour le mettre à l'abri de tout malheur. Oui, c'est le déshonneur de ton propre royaume que tu as préparé. En détruisant de nombreux peuples, tu t'es fait du tort à toi-même. Car du sein des murailles, les pierres vont crier, de la charpente, les poutres leur feront écho. Quelle ironie ! Les Babyloniens pensaient que leur conquête assurait leur avenir, l'avenir de leur famille. Mais c'est en réalité leur propre ruine qu'ils ont préparée. Pensaient-ils réellement qu'en s'en prenant aux autres nations, en prenant ce qui n'était pas à eux, il ne leur arriverait aucun malheur ? Pensaient-ils réellement que ça se passerait comme ça ? Et là aussi, nous avons une juste rétribution. Ils reçoivent exactement le tort, les dommages qu'ils ont causés aux autres. Et jusque-là, l'Éternel n'est pas encore mentionné. Mais ça va changer à partir du verset 12. « Malheur à qui bâtit la ville en répandant le sang, à qui fonde la cité sur le crime, quand les peuples travaillent pour ce qui périt par le feu et quand les nations s'éreintent pour rien, cela ne vient-il pas de l'Éternel, du Seigneur des armées célestes ? Car la terre sera remplie de connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond des mers. » Ici, on retrouve la même ironie, le même ton moqueur. Les Babyloniens ont exploité des peuples pour construire leur cité, pour bâtir leur empire. Et tout ça pourquoi ? Verset 13, pour rien. Toutes ces belles constructions, tout cela va partir en fumée. Et le texte est très clair. La fin de l'empire babylonien, cela vient de l'Éternel. C'est l'Éternel qui l'a décidé. Le véritable maître de l'histoire. C'est lui qui conduit à ce que les empires chutent. Je mentionne encore le quatrième malheur. Verset 15. « Malheur à toi qui force ton prochain à boire et qui vide ton outre jusqu'à l'ivresse pour pouvoir contempler sa nudité. Toi aussi, tu seras rassasié d'infamie au lieu de gloire. Toi aussi, tu boiras et puis l'on te mettra à nu pour découvrir ton incirconcision. Ton tour viendra de boire la coupe de colère que l'Éternel te tendra de sa droite. Le déshonneur recouvrira ta gloire. » Alors on peut se demander, en lisant le verset 15 notamment, est-ce ainsi que les Babyloniens traitaient les autres peuples, de manière littérale, en les enivrant, en les mettant à nu pour se moquer d'eux, en les livrant à la honte ? Ou est-ce une manière imagée d'évoquer comment ils ont séduit les autres nations ? Le vin comme finalement une image de la séduction. Et de nouveau, selon la loi du talion, il leur sera fait ce qu'ils ont fait aux autres. Ils seront publiquement livrés à la honte. Oui, lorsque l'empire babylonien chutera, ce sera la honte pour eux, devant tous, alors que c'était un empire si grand. Et surtout, au verset 16, il est mentionné qu'ils boiront la coupe. Et je pense que cette allusion ne vous est pas totalement inconnu. Ils boiront la coupe, celle de la colère divine. Et en parlant de cette coupe, nous pensons effectivement à la prière de Jésus avant son arrestation. Vous vous souvenez de cette prière ? Qu'est-ce que Jésus a demandé à son Père ? Éloigne de moi cette coupe. La coupe de ta colère. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus a suivi la volonté de son Père et a bu cette coupe de la colère de Dieu. Je l'ai dit, Dieu ne ferme pas les yeux sur le mal. Dieu ne ferme pas les yeux sur le péché. Et à la croix, précisément, Dieu a exercé sa justice. Oui, à la croix, Dieu a fait boire la coupe de sa colère. Non pas à nous, comme il l'a fait pour les Babyloniens, mais à Jésus, qui a porté nos péchés. C'est Jésus qui a bu la coupe de la colère de Dieu. Toute la condamnation que nous méritions pour notre péché, et ce n'aurait été que justice, est tombée sur Jésus, l'innocent parfait. Et c'est pourquoi notre seul recours pour ne pas être jugé comme le reste du monde, comme les Babyloniens, c'est de mettre notre foi en Jésus. le juste vivra grâce à sa foi. Le juste aura la vie sauve, aura la vie éternelle grâce à sa foi. Une foi placée dans le Fils de Dieu. Notre seul refuge, c'est Jésus qui est mort pour nous et qui est ressuscité. Et vous, où est votre refuge ? Dans ce monde rempli d'injustice, où est votre refuge ? Dans ce monde qui sera jugé par Dieu et condamné par Dieu, où est votre refuge ? Et devrait-on dire, qui est votre refuge ? Oui, dans un monde où l'injustice demeure, une première raison de faire confiance à Dieu, d'après le texte, c'est qu'il ne ferme pas les yeux sur le mal. Il va rendre justice. Le mal ne reste pas impuni pour toujours. Notre Dieu est définitivement juste, et si aujourd'hui, nous qui croyons, nous échappons à la condamnation, c'est uniquement parce qu'à la croix, Dieu a exercé sa justice sur son Fils. Mais il y a une deuxième raison dans notre texte. Deuxième raison pour laquelle nous devrions faire confiance à Dieu, même dans un monde rempli d'injustice, c'est que Dieu aura le dernier mot. Alors c'est très proche du point précédent, mais il me semble que c'est aussi mis en évidence dans notre texte. Le texte ne s'arrête pas juste à la réalité de la justice de Dieu en tant que juge, mais le texte mentionne aussi comment l'histoire de ce monde se termine. Je reprends encore les versets 12 à 14. « Malheur à qui bâtit la ville en répandant le sang, à qui fonde la cité sur le crime, quand les peuples travaillent pour ce qui périt par le feu, et quand les nations s'éreintent pour rien, cela ne vient-il pas de l'Éternel, du Seigneur des armées célestes ? Car la terre sera remplie de connaissances de la gloire de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond des mers. » Ce que les empires peuvent bâtir est toujours éphémère. Et ce que les empires d'aujourd'hui peuvent bâtir sera éphémère. Il n'est pas prévu dans le dessein, dans le projet de Dieu, qu'à la fin, ce soit la gloire des hommes qui resplendisse. Non. Surtout quand cette gloire a été acquise par le sang. Non, le verset 14 remet les pendules à l'heure. Et si parfois, en pensant à notre actualité, si parfois les décisions folles des dirigeants de ce monde peuvent nous faire trembler, parce qu'il suffit parfois d'une décision pour déclencher une guerre, souvenons-nous du verset 14. Et ces mots sont aussi chez le prophète Ésaïe, je reviendrai là-dessus. Que dit le verset 14 ? Que partout, un jour, partout sur terre, tous les habitants, tous connaîtront l'Éternel, tous connaîtront sa gloire. Que celui qui aura le dernier mot, ce ne sont pas les tyrans de notre temps, ce ne sont pas les puissants de notre monde, mais celui qui aura le dernier mot, c'est notre Dieu. Je lis maintenant le texte parallèle en Ésaïe 11, verset 9. On ne commettra ni mal, ni destruction sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. À la fin de l'histoire, c'est Dieu qui sera grandement honoré, et non pas un des empires terrestres. À la fin de l'histoire, celle vers laquelle nous nous acheminons, en 2026, nous allons vers la fin de l'histoire, eh bien l'adoration, l'admiration, les louanges n'iront pas aux hommes, combien même ils pourraient être adulés aujourd'hui, mais iront à l'Éternel, notre Dieu suprême. Ce sera une réalité définitive sur la nouvelle terre, là où la justice habitera, là où il n'y aura plus ni mal ni destruction. Oui, sur la nouvelle terre, plus personne ne commettra le mal. Sur la nouvelle terre, nous ne serons plus dans un monde rempli d'injustice. Tous connaîtront le Seigneur qui les a sauvés. Et connaître cet avenir glorieux, eh bien, fortifie notre espérance aujourd'hui. et nous aide à patienter avec confiance au milieu des injustices de ce monde. Oui, un jour, ça prendra fin. Oui, un jour, la terre entière sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. Et Dieu, dans notre texte, a aussi le dernier mot. Nous allons nous pencher sur le dernier malheur que je n'ai pas encore évoqué. À quoi sert une idole sculptée par l'artisan ou une statue de métal fondu qui n'enseigne que le mensonge? Car celui qui l'a faite se confie en son Dieu pour fabriquer une idole muette. Oui, malheur à qui dit à un morceau de bois, réveille-toi! À la pierre muette, allons, sors du sommeil! Peuvent-ils enseigner? Voici, ils sont plaqués d'or et d'argent, mais il n'y a en eux aucun souffle de vie. Contrairement au Dieu d'Habacuc, qui lui répond, qui lui parle, avec qui le prophète est en relation, eh bien les idoles qui sont faites de bois et de pierre n'ont pas de vie et ne peuvent parler à leurs adorateurs. C'est là tout le ridicule, en fait, de la situation. Là, peut-être qu'on sent encore mieux l'ironie. Il s'adresse à un bout de bois, il dit « Vas-y, parle-moi !» Quelqu'un a fait le lien entre l'idolâtrie et finalement tous les crimes commis par les Babyloniens. Qu'il y a un lien entre le fait qu'ils soient des idolâtres et le fait qu'ils commettent autant d'atrocités. Autrement dit, nous avons là l'explication, dans l'idolâtrie, la raison pour laquelle les Babyloniens étaient impitoyables. C'est parce qu'ils ne connaissaient pas le vrai Dieu. En adorant ce qui n'est pas Dieu, l'homme est livré en fait à ses mauvais penchants. L'homme est livré à son avidité. Il ne connaît pas la loi de Dieu, il n'a pas de relation avec le Dieu vivant. Et donc il n'y a aucun frein quand il veut commettre le mal. Donc il y a un lien entre idolâtrie et crime, et péché, et atrocité. Et peut-être que vous avez en tête des exemples d'atrocités qui ont été commises en notre siècle ou au siècle précédent. Quelle était l'idole qui était derrière? Et jusqu'où ira la folie de l'homme idolâtre? Cette semaine, je suis tombé sur un entretien avec une philosophe qui s'appelle Gabrielle Alpern. Cette philosophe a écrit un essai qui s'intitule « Intelligence artificielle, deux points, et l'homme créa Dieu ». Sa thèse est que l'homme, en travaillant sur l'intelligence artificielle, en a fait un Dieu. Son Dieu. Un Dieu qui n'est pas si muet. Au contraire, la philosophe va dire que l'IA a, entre guillemets, un avantage sur le Dieu de la Bible. L'IA est bavarde. Elle répond instantanément. Et nous sommes émerveillés par tout ce que l'IA est capable de faire, par ses prouesses. Et la philosophe fait le parallèle avec les miracles que nous attendons d'un Dieu. Un Dieu fait des miracles. L'IA fait des miracles. L'IA, en 2026, est devenue le Dieu de beaucoup de nos contemporains. Et cela fait réfléchir. Est-ce que ce n'est pas effectivement le Dieu de notre siècle, à qui nous mettons toute notre confiance? Et même si elle est bavarde, cette idole, ce que nous lisons dans notre texte est toujours vrai. Verset 19, il n'y a en eux aucun souffle de vie. C'est vrai aussi pour l'IA. Ce n'est pas un être vivant. Mais combien, vous voyez, la folie de l'homme idolâtre. Et quelles seraient les répercussions? Et il y en a déjà. En vouant un culte à l'IA, toutes les injustices qui sont commises derrière. Idolâtrie et crime, c'est lié. Par contraste, par rapport à toutes ces idoles qui sont muettes ou même bavardes, mais qui n'ont pas de vie, nous avons le verset 20. L'Éternel, lui, se tient dans son saint temple. Que le monde entier fasse silence devant lui. Ça, c'est notre vrai Dieu. Un Dieu devant lequel, en fait, on se tait. tellement on le respecte. Tellement on veut juste nous attendre à lui. Le maître de l'univers, c'est Dieu. Et devant lui, effectivement, les idoles sont muettes et le monde fait silence. Qu'est-ce que l'IA par rapport à Dieu? Qu'est-ce que l'être humain par rapport à Dieu? Le seul qui règne, le seul qui mérite adoration et soumission, c'est notre Dieu. Et la fin de l'histoire le révélera, mais dès aujourd'hui, nous pouvons nous confier en lui. Nous pouvons être en relation avec lui, par Jésus-Christ. Oui, dans un monde qui est rempli d'injustices, le salut ne peut venir des hommes qui sont responsables de ces injustices. Le salut ne peut venir que d'ailleurs. Ne peut venir que de Dieu. De celui qui est à la fois le juste juge et le roi suprême. Je n'ai cessé de les répéter durant ce message, le monde va mal. Et nous déplorons les injustices qui frappent les plus vulnérables. Les méchants semblent parfois triompher, c'est aussi notre expérience. Parfois, ils ne reçoivent pas ce que méritent leurs actes, en tout cas en cette vie. Mais le texte d'Habacuc 2 nous donne des raisons de nous confier en Dieu malgré tout cela, en 2026. Premièrement, que Dieu ne ferme pas les yeux sur le mal, et qu'en temps voulu, il jugera toutes les iniquités, et que c'est bien lui qui a mis fin. Dans l'histoire, nous pouvons le prouver, c'est lui qui a mis fin à l'empire babylonien à cause de tout le mal qu'ils ont commis. Et deuxième raison pour laquelle nous pouvons nous confier en Dieu, c'est que Dieu aura le dernier mot. Donc plutôt que de se confier en l'homme, ou de se confier en une machine, ou se confier en quelque autre chose dans cette création, confions-nous en Dieu, qui a le dernier mot. La quête de puissance qu'il y a chez les êtres humains, et c'est une quête que nous pouvons avoir, même à petite échelle, la quête de puissance, de vouloir dominer, de vouloir être au-dessus des autres, de vouloir performer, être meilleur que les autres, cette quête, nous pouvons en être sûrs, est toujours vaine. C'est de la vanité. Ce n'est que poussière. Parce que, à la fin, la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Donc ce ne sont pas nos prouesses qu'on mettra en avant. Ce ne sont pas nos réussites qu'on mettra en avant. Mais c'est avant tout ce que Dieu aura accompli. Parce que son œuvre subsistera pour toujours. C'est pourquoi je veux nous exhorter à pouvoir rester fidèles à Dieu, encore à notre époque, encore en notre temps, dans ces temps qui peuvent être troublés. Et on ne sait pas si demain, la guerre qui semble si proche et se rapprocher toujours davantage de l'Europe, si demain, il n'y a pas un drame qui nous pousserait à nous dire « Pourquoi tant d'injustices ?» Restons fidèles à Dieu, confiant qu'il exercera, comme il l'a promis, parfaitement sa justice au moment qu'il aura fixé. Et j'aimerais terminer par la lecture de Romains chapitre 3, qui nous parle justement de cette justice de Dieu et comment Dieu a exercé sa justice à notre égard. Romains chapitre 3, versets 21 à 26. « Mais maintenant, Dieu a manifesté, sans faire intervenir la loi, la justice qu'il nous accorde, et à laquelle les livres de la loi et des prophètes rendent témoignage. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. » C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Dieu montre ainsi qu'il est juste, c'est-à-dire par l'œuvre de la croix, il montre qu'il est juste parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis autrefois. au temps de sa patience. Il montre aussi qu'il est juste dans le temps présent. Il est juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Voilà comment Dieu a manifesté sa justice envers nous. La justice qui devait châtier, qui devait punir le péché, est tombée sur Christ. Et tous ceux qui se confient en Christ sont donc déclarés justes. Et en faisant cela, Dieu demeure juste. Et cela nous émerveille et nous laisse peut-être sans voix. Prions ensemble. Vraiment, en étant totalement limités, nous ne pouvons pas comprendre pourquoi il y a tant d'atrocités encore en notre monde. Pourquoi l'horreur est toujours d'actualité. Pourquoi l'homme méchant est capable de faire tant de mal et finalement de ne pas être toujours inquiété. Oui, lorsque nous voyons les injustices de ce monde, nous pouvons nous poser bien des questions, et en particulier à ton sujet. Mais merci pour ta parole, parce que ta parole nous permet justement d'être cette lampe à nos pieds qui nous dirige vers la vérité. Pas celle que nous entendons dans les médias, mais vraiment celle qui vient de toi, où tu te révèles à nous comme étant ce Dieu juste qui ne ferme absolument pas les yeux sur le mal. Tu ne laisses absolument rien passer et le mal est toujours sanctionné. La croix nous le rappelle. Oui, si Jésus est mort pour nos péchés, c'est parce qu'il fallait que quelqu'un meure et que justice soit faite. Mais nous voulons encore te remercier de ce que tu ne nous englobes pas dans le même châtiment, dans la même condamnation que le reste du monde. Mais que, encore en ce temps, nous pouvons nous confier en toi et attendre, Seigneur, que tu réalises effectivement parfaitement ta justice et complètement ta justice. Oui, Seigneur, nous voulons nous attendre à toi dans ce temps où parfois nous pouvons effectivement être inquiets des nouvelles que nous entendons. Mais pourtant, à la fin, nous savons comment ça se termine. Nous savons que la terre sera rempli de la connaissance de Dieu. Alors oui, Seigneur, en attendant ce jour et en étant ici-bas, accorde-nous, Seigneur, de continuer à regarder à toi, de continuer à compter sur toi, sur ta justice, à croire que tu es entièrement juste et que tu feras pleine justice sur tout ce qui peut-être nous fait mal aussi au plus près de nous, toutes les injustices que nous subissons nous-mêmes, nous le croyons, tu agiras selon ton droit. S'il te plaît, Seigneur, accorde-nous de continuer à espérer en toi, malgré les apparences, malgré les circonstances difficiles, malgré le fait que peut-être notre vie n'est pas toujours facile. Mais nous le savons, au bout du compte, celui qui aura le dernier mot, c'est toi. Et nous sommes privilégiés de pouvoir te connaître déjà, dès maintenant. Et nous te louons au nom de Jésus-Christ. Amen.